1970, 8 étudiants de l'Université Laval préparent un dossier en vue de l'obtention d'un permis du CRTC dans le but de créer une station de radio. Le permis est accordé. 15 février 1973, CKRL 89.1 émet pour la première fois à 17h. Point de départ de ce qui deviendra une aventure d'une richesse inégalée. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
Avant, j'étais pas bien. Pas bien avec moi, pas bien avec personne. Avant, je me faisais peur. Mais c'était avant. Avant, quand j'étais toxicomane.
Quand la toxicomanie prend toute la place, il y a portage. Au Québec, des milliers de personnes sont toxicomanes. Aidez-les à s'en sortir. Donnez à portage. Visitez portage.ca.
Maintenant, je suis bien. Vraiment bien. Maintenant, je suis fier de moi. Maintenant, je vis. Donné à portage. Merci.
CKRL 89.1.
Bonjour à tous, ici Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL. Vous écoutez dès maintenant, midi et jusqu'à 13h, l'émission Au 7e ciel, émission entièrement consacrée au cinéma, qui porte le sous-titre « Regard sur le cinéma », regard avec un S, c'est-à-dire toute perspective peuvent être embrassées, engagées pour parler du cinéma qui se fait maintenant, le cinéma qui s'est fait, qui nous parle encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire du cinéma, les productions courantes, parfois, peut-être moins ces temps-ci, où les dernières émissions étaient consacrées à des cinéastes, à chaque fois une émission, un cinéaste. Tout le mois de juillet, on arrive en août, et en août, y a un événement en ce début de mois qui scande un peu, si on veut, une certaine manière de penser à l'audiovisuel et les médias de masse aujourd'hui. C'est l'événement le Bivouac urbain qui se déroule au centre-ville de Québec, c'est-à-dire dans Saint-Roch, principalement à la place de l'Université, aux angles de la Couronne et boulevard Charest. C'est un événement qui permet de rassembler un certain nombre d'artistes et d'acteurs qui se sentent touchés d'une manière ou d'une autre par les nouvelles technologies et en particulier par le jeu vidéo. Et en parallèle à cet événement, il y a un certain nombre de choses qui se passent, dont un dont je m'occupe plus particulièrement, qui est une soirée de projection qui aura lieu à 9h aujourd'hui, à 21h. Une soirée de projection entièrement consacrée aux relations entre cinéma et peinture. C'est une année assez particulière pour Bivouac urbain. Je peux peut-être spécifier un peu ce en quoi consiste le cœur du bivouac. Principalement, l'occasion donnée à plein de gens qui sont engagés dans le milieu du jeu vidéo en particulier, de montrer leur talent, de se lancer, se jeter à l'eau par le défi qu'offre le bivouac urbain, c'est-à-dire l'idée de créer un jeu sur quelques jours, en quelques heures, à partir d'un thème qui n'est pas connu d'avance par les principaux participants. Et en parallèle à ça, si on veut, à cet événement qui fait la part belle à la création, dans le jeu vidéo, donc qui sort un peu, je pense que c'est la volonté des organisateurs de l'événement, d'une idée normative un peu corporatiste du jeu vidéo, donc sortir un peu des ornières d'une certaine façon évidemment généralisée de considérer le jeu vidéo donc sous ses aspects, sous ses atours commerciaux, donc sortir de ces ornières-là commerciales pour proposer autre chose. C'est dans ce cadre-là qu'une programmation de cinéma d'animation dont je m'occupe peut avoir peut faire un peu écho, une approche qui se vanterait pas de remettre sur la table, disons, les idées reçues ou ce qui est déjà établi en ce qui est trop jeu vidéo. Donc l'expérimentation, principalement par les moyens qu'offrent l'audiovisuel et l'électronique, c'est un peu à partir de cette contrainte que la programmation de film en plein air qui va se dérouler à partir de 9h ce soir a été construite, a été élaborée, et je pourrais dire que l'entièreté de l'émission va être consacrée aux motifs qui ont mené au choix de tous ces films qui seront présentés. Donc principalement, en fait, ce sont tous des courts-métrages qui ne sont pas nécessairement des œuvres qui mettent de l'avant les technologies les plus avancées, mais qui ont marqué à un moment ou l'autre une certaine façon, non seulement de faire du cinéma d'animation, donc mais aussi une certaine façon d'utiliser des techniques de cinéma d'animation. Donc c'est un principe de base qui a mené à la programmation de ce soir. Donc l'importance que les nouvelles techniques ont pu apporter aussi bien au cinéma d'animation, ça vaut autant d'ailleurs pour le cinéma plus normatif, disons, plus traditionnel. Donc comment les techniques ont pu nourrir la création, renouveler la manière de faire des films ou de penser le cinéma, c'est un peu le fer de lance avec lequel je me suis permis de créer cette programmation, sur laquelle je reviens tout de suite, en fait, dans quelques instants. Il y a plusieurs cinéastes aux approches variées qui sont convoqués dans cette programmation, en fait une vingtaine, et j'aurai le plaisir non pas de détailler tous les films, mais d'essayer de montrer les lignes de force, les divergences, la variété de la proposition qui sera offerte ce soir aux spectateurs avertis ou de passage curieux, dès 21h, et ce sera une projection gratuite. À tout de suite. entendu juste à l'instant une chanson de Betty Davis qui s'appelait Anti Love Song. Et juste après, vous avez peut-être eu l'impression qu'il y avait des défauts en ondes, c'est-à-dire des bruits de fond ou alors des fils qui se connectent mal ou qui se retrouvent en friction avec d'autres fils, etc. Mais ce n'était pas le cas du tout, en fait. C'était plutôt la bande-son d'un film qui sera présenté ce soir au parc de la place de l'Université, angle de la Couronne et boulevard Charest, dans le cadre du bivouac urbain, cinéma en plein air. Cette bande sonore, elle est tirée d'un court film de Richard Reeves, cinéaste d'animation canadien-anglais, un court film qui s'appelle The Yardwood Trail, qui est inspiré de Walter Yardwood, Donc Walter Yarwood, qui est un des membres du fameux groupe des 11, un groupe canadien-anglais, disons contemporain de l'automatisme, un peu ultérieur à l'automatisme, si on veut. Contemporain, parce que ça a émergé quand même à un moment où l'automatisme était très connu au Québec, mais bon, il a émergé un peu après, et c'est dans la mouvance. Le travail de Yarwood et du groupe des 11 est dans la mouvance plus large, disons, nord-américaine de l'expressionnisme abstrait, dont la figure de proue est évidemment Jackson Pollock. Donc une manière d'envisager la peinture et le cadre de façon tout à fait explosive, en mettant de l'avant principalement le geste pictural plutôt que le sens de la représentation qu'on trouve dans le cadre, c'est le geste pictural qui vient, d'une certaine manière, légitimer le cadre de la peinture. Et on a l'impression, évidemment, souvent dans l'expressionnisme abstrait, que le cadre est toujours quelque chose de relatif, de discutable, d'arbitraire. Et cette remise en cause du cadre répond bien à la mise en cause, disons, plus large dans les mouvements de picturaux abstraits, du sens et de la portée des formes traditionnelles picturales. Donc, je dirais que la programmation qui va être présentée ce soir, à laquelle se consacre l'émission d'aujourd'hui, est principalement un commentaire et une extrapolation du cinéma à partir de ces découvertes, de ces inventions qui ont essaimé dans l'histoire de la peinture au XXe siècle. En tout cas, le premier volet, disons, de cette programmation qui a lieu ce soir est une série de 11 films qui, chaque film, rend hommage à l'œuvre d'un des membres du groupe des 11. Et en particulier, non seulement les cinéastes se sont attachés à essayer de mettre en mouvement un style pictural caractéristique de chacun des membres de ce groupe, mais aussi à tenter cinématographiquement, au-delà du mouvement de l'image et de la référence à la peinture, trouver un équivalent, proposer un commentaire sur ce travail pictural par d'autres moyens que seul le cinéma offre. Donc, évidemment, si on commence à faire de la peinture en mouvement, disons, par le cinéma, par le mouvement de l'image, essayer d'animer une esthétique picturale, on reste un peu dans le simple prolongement de la forme picturale et dans l'hommage au sens le plus strict, c'est-à-dire une transposition, ni plus ni moins, d'un tableau dans un autre tableau, cette fois c'est animé, donc le tableau qu'offre le cinéma, c'est forcément du tableau en mouvement, mais au-delà de ça, c'est possible de commenter, d'ajouter une couche cinématographique à cet apport pictural de chaque peintre du groupe des 11, qui implique donc l'apport singulier du cinéaste et son commentaire précis sur le peintre auquel il rend hommage. Et dans l'exemple que j'ai fait entendre juste après la pièce de Betty Davis, donc de Yardwood Trail, ce commentaire, cet apport précis du cinéaste Richard Reeves se trouve particulièrement dans la bande-son. Donc un travail sur la bande-son qui est en fait une approche qui recoupe plusieurs films qui sont présentés ce soir dans le cadre de cette programmation du bivouac urbain. Donc, programmation qui a été pensée non seulement en fonction de la place qu'occupe l'électronique et les nouvelles technologies dans le mode de création propre au cinéma d'animation ces années-ci, mais aussi aux diverses manières dont on peut appréhender les nouvelles technologies et leurs manifestations dans les films. Donc finalement, c'est pas nécessairement les effets spéciaux qui peuvent être mis de l'avant dans les films qui sont sélectionnés pour mieux souligner la prévalence des médias électroniques sur le cinéma ces années-ci. Au contraire, ça peut être de façon plus subtile, par un travail sur le son, entre autres, et une approche peut-être plus en phase avec un certain cinéma d'animation traditionnel que peut s'exprimer la musique électronique. Je vais préciser un peu. Dans l'exemple de Richard Reeves, ce qui me frappe, c'est à quel point finalement le travail sur la bande son implique donc un usage de médium électronique pour produire un certain nombre de bruits, mais en même temps, ça s'impose tout à fait dans la tradition de ce travail sur le son par le montage et une attention de tous les instants aux subtilités de l'acoustique du film qui doit se faire finalement en fin de parcours d'un film. Donc c'est littéralement le travail de studio qui est souligné et qui fait en sorte que finalement le film de Reeves, tout en faisant usage d'un certain nombre d'effets qu'on pourrait qualifier d'électroniques, à raison, trouve en même temps le moyen le plus propice à montrer comment, d'une certaine façon, le cinéma, avec ses modes de production précis qui se sont développés au fil des décennies, annonce déjà une certaine manière de mettre en forme et de mettre en œuvre les nouveaux moyens qu'offre la technologie. En l'occurrence, c'est pas parce que on travaille sur le son en studio qu'on est en train d'être, si on veut, sous le joug des modes électroniques. Au contraire, ce que fait Reeves, c'est bien essayer de travailler, si on veut, la substance sonore, l'acoustique de son film comme un matériau. Et la dimension électronique musicale de ce film-là est évidemment utilisée comme une matière. Et c'est cette relation, finalement, entre l'organique et l'inorganique qui fait toute la force, je pense, d'une partie du cinéma d'animation stimulant aujourd'hui, qui réussit à rester en phase avec des modes d'expression assez entendus du cinéma, tel qu'on le définit, en particulier le cinéma d'animation, le cinéma expérimental, tout en mettant de l'avant des moyens électroniques qui, auparavant, étaient impossibles de mettre en valeur dans les films et qui montrent à quel point les cinéastes peuvent être au plus près, si on veut, de la fine pointe des avancées techniques et au plus près aussi d'une idée du cinéma qui n'est pas entamée du tout et qui reste encore à explorer avec les technologies, avec les moyens qu'on a aujourd'hui.
Like a baby in my heart. When I was a slave.
On vient d'entendre la bande-son d'un film qui sera présenté ce soir dans le cadre du Bitvoix Urbain qui s'appelle Playtime de Stephen Volotion. La musique, en fait le piano enregistré live était celui d'Oscar Peterson. Playtime s'inscrit de plein pied dans un programme donc qui amorce cette programmation en plein air ce soir de cinéma d'animation. Un programme qui a été qui résulte d'un mandat qu'un regroupement de cinéma d'animation basé à Toronto, qui s'appelle le Toronto Animated Image Society, a lancé à un certain nombre de cinéastes pour rendre hommage au groupe des 11, le groupe des 11 étant ce regroupement très très important pictural dans la mouvance de l'expressionnisme abstrait au courant des années 50. Et ce film de Volotion, comme chaque film de cette programmation en première partie ce soir lors du cinéma en plein air dans le cadre du Bivouac Urbain, et en fait un hommage à un des peintres du groupe des 11. Et l'ensemble de la programmation s'appelle, de cette partie de la programmation s'appelle Eleven in Motion. Le film de Volotion était inspiré de l'œuvre de Jock McDonald. Et évidemment, vous avez entendu la musique de Volotion qui est typique. C'est justement intéressant de faire entendre cette musique après avoir laissé aux auditeurs l'occasion de se demander s'il n'y avait pas des problèmes en studio, puisque c'était la bande-son du film de Richard Reeves de Yarwood Trail qui jouait il y a peut-être 15 minutes. Et en fait, cette bande-son qui fonctionne un peu comme des boucles électroacoustiques avec des éléments d'électronique est tout à fait en porte-à-faux, ou en tout cas tout à fait à 100 lieues des choix musico-esthétiques de Volotion. Donc, pourtant, et là c'est typique du cinéma de Volotion, donc, la manière dont il s'accapare la matière filmique, disons le matériau cinématographique, n'est pas si éloigné à certains moments du travail de Richard Reeves. Il y a malgré tout une communauté d'esprit entre ces deux cinéastes et entre la plupart des cinéastes en fait qui ont participé à Eleven in Motion, qui se décline de manière diverse. Et une des particularités du cinéma de Volotion, c'est justement de faire en sorte que la forme qu'il propose pour rendre compte, par exemple, de l'œuvre de Jock McDonald, soit impur, c'est-à-dire implique à la fois des éléments techniques qui relèvent du travail le plus avancé, soit en termes de montage ou en termes de coloration avec l'aide du laboratoire Technicolor pour faire en sorte que son œuvre ait une résonance plastique contemporaine incontestable, mais en même temps il y a un jeu sur le décalage culturel, ou en tout cas dans les références culturelles, un jeu de décalage entre ce travail technique très avancé à certains moments et d'autres moments où justement l'image en mouvement est créée par de simples mouvements au pinceau sur la pellicule par le cinéaste lui-même, qui applique donc de la couleur sur la pellicule. Et ceci renforcé, disons, cet aspect organique de son travail, je pense que c'est peut-être le mot d'ordre avec lequel il faut comprendre une grande part de la programmation qui va être proposée ce soir au cinéma en plein air du Bivouac Urbain. C'est cette relation constante entre l'organique et l'inorganique qui est, disons, le fer de lance avec lequel je pense qu'il est possible aujourd'hui de penser la création en des termes qui incluent l'apport des technologies sans pour autant laisser de côté la subjectivité, la singularité du point de vue d'un artiste qui ne doit son art qu'à lui-même.
Offrez-vous un t-shirt officiel de CKRL à 12$ au lieu de 20. Pendant 5 semaines et jusqu'à épuisement des stocks, nos 5 variétés de t-shirts seront offertes en alternance pour seulement 12$. Du 8 au 11 août, le Mauve. Passez-nous voir sur semaine de 9h à 17h au 405 3e avenue.
De Christine Brouillette à Albert Camus, en passant par Anne Hébert et Roger Lemelin, nombreux sont les écrivains qui ont flâné dans Québec. La promenade des écrivains vous propose de suivre leurs traces au gré des textes qu'ils ont laissés. En 2 heures de flânerie et à travers des lectures commentées, vous découvrirez une ville réinventée où la fiction se marie au réel. La promenade des écrivains, 8 parcours différents et autant d'expériences fascinantes tout au long de la belle saison. Pour plus de détails, rendez-vous sur promenade-écrivain.qc.ca.
À CKRL l'été, des nouveautés francophones y en pleut. Du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30, votre radio vous propose son hit parade et ses nouveautés francophones à l'émission Nouveau Coup.
Plus de 10 heures de nouveautés chaque semaine.
L'innovation seulement au 89.1.
C'est KRL 89.1.
But anyway, what I'm trying to tell you folks is, rinse it, here we rinse are. It up, rock on. Turn up the sound and push up the master. Musical slaughter, they call disaster. Que ya se set the whole dish on fire.
Cultive tes goûts.
On vient d'entendre une partie de la bande-son d'un des films qui sera présenté ce soir dans la première partie de la programmation de cinéma en plein air au Bivouac Urbain, angle de la Couronne et boulevard Charest. La bande-son d'un des films d'Eleven in Motion, 11 films réalisés par 11 cinéastes d'animation en hommage à des peintres du groupe des 11. La bande-son qu'on vient d'entendre, c'est celle du film qui est peut-être l'un des plus beaux du lot, ou en tout cas une œuvre assez exceptionnelle, qui s'appelle Strips, de Félix Dufour-Lapeyrière. C'est une cinéaste d'animation expérimentale du cinéma québécois, une des figures fortes de ce courant, dans lequel on pourrait mettre également Carl Lemieux et Volotion, dont je parlais peut-être avant la pause, qui peut-être appartient pas tout à fait à la même génération, mais qui malgré tout est dans une filiation peut-être plus grande avec le travail que faisait évidemment Norman McLaren dans les années 50-60. C'est même affirmé de manière très très claire, entre autres par la référence au jazz et par la volonté de reproduire, si on veut, des méthodes d'animation que préconisaient plusieurs films emblématiques de l'art tout à fait singulier, novateur et essentiel pour le cinéma d'animation contemporain proposé par Norman McLaren. Mais Félix Dufour-Lapeyrière est plus, je dirais, aux ornières de ce qu'on appelle le cinéma d'animation et le cinéma expérimental. Et ce film Strips Et ton hommage au peintre Jack Bush, donc un autre illustre membre du groupe des 11. C'est un film qui est un peu à part dans cette programmation. C'est peut-être le film le plus expérimental et celui qui met le plus de l'avant la rupture qu'il peut y avoir entre le travail sur l'image et le travail sur le son dans une œuvre de cinéma d'animation qui essaie d'exploiter au maximum tous les moyens par lesquels une œuvre cinématographique peut atteindre un degré de complexité qui démontre aussi toute la richesse et toutes les possibilités qu'offre cet art. Et en particulier dans Strips de Félix Dufour-Laperrière, ce qui est frappant, là, évidemment, j'insiste là-dessus parce que dans le cadre de cette émission radiophonique, comment faire entendre aux auditeurs des films d'animation? C'est une question qu'on peut se poser, surtout s'il s'agit de films expérimentaux, donc des films qui ne sont pas spécialement narratifs au sens traditionnel du terme et qui n'ont pas à cœur de mettre en image, disons, des personnages qui, finalement, reproduiraient sous une forme animée la fiction cinématographique traditionnelle. Donc, pas du tout. Et en particulier pour ce film de Dufour-Laperrière, puisque là, vraiment, on est, je dirais, les deux pieds dans le cinéma expérimental, dans cette manière d'envisager aussi le cinéma d'animation comme étant une aventure à part entière qui se distingue tout à fait des formes traditionnelles cinématographiques. Et moi, j'ai l'impression que ça parle certainement, ça peut parler, en tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'espère, aux créateurs qui vont œuvrer dans le cadre de ce défi que le bivouac urbain leur lance, c'est-à-dire cette idée de créer donc un jeu vidéo à partir d'une thématique qu'ils ne connaissent pas d'avance et ils n'auront que quelques heures pour y arriver. Donc, une des manières, peut-être, de créer littéralement un jeu vidéo qui sorte des ornières habituelles, c'est justement en réinventant et en repensant la façon dont il est possible de faire du jeu avec un cadre spécifique qui est forcément repris de ce qu'on connaît en audiovisuel, c'est-à-dire le cadre de l'image. Forcément, le cadre du jeu vidéo n'est pas le même, mais joue sur les mêmes référents que le cinéma pour amener le public et les joueurs ailleurs qu'au cinéma, mais toujours en s'y référant d'une manière ou d'une autre, mais aussi comme le cinéma très souvent et toujours encore aujourd'hui a dialogué avec la peinture, ne serait-ce que parce que il partage avec la forme picturale une importance absolument indéniable du cadre. Il a été possible de réinventer d'une certaine façon même la manière de considérer la peinture à mesure que le cinéma se développait. Donc tous ces arts-là sont en dialogue et la meilleure chose qu'on puisse espérer pour l'avenir du jeu vidéo qui se pense aussi comme une forme d'art, c'est qu'il aille puiser dans ce dialogue extrêmement fécond entre peinture, forme d'expression audiovisuelle comme le cinéma d'animation et le cinéma expérimental le sont. Et en ce qui a trait à Strips de Félix Dufour-Laperrière, ce qui frappe, en ce qui a trait au travail sur le son, justement, c'est cette volonté d'aller sur un territoire imaginaire qui est celui du monde en dehors du cadre que le spectateur a sous les yeux et que propose Félix Dufour-Laperrière. Donc, un travail sur le hors-champ, un travail sur l'imaginaire que recèle l'image et que peut suggérer le cinéaste par d'autres moyens que l'image, c'est évidemment une possibilité pour lui d'aller puiser dans les ressources sonores reproduites par l'image, reproduites dans l'image. Et dans le cas de Strips, il va assez loin dans le sens, dans la mesure où effectivement, même par rapport, je dirais, à Richard Reeves, qui utilise une trame électroacoustique finalement assez rustre, assez simple, dépouillée. Au contraire, ce que fait Félix Dufour-Laperrière, c'est montrer à quel point l'espace sonore peut être, le travail sur le son peut être à part entière un espace cinématographique, le lieu où se définit au mieux, où s'exprime au mieux l'espace cinématographique. Et ce qui est frappant, c'est que dans cette trame électroacoustique, ou en tout cas, oui, qu'on peut qualifier d'électroacoustique, dans cette trame sonore, tout ce qu'on entend, ce sont des bruits de la rue, des bruits donc qui ont été pris par les preneurs de son qui ont fait finalement un travail comme on en fait sur des documentaires. Mais ces sons, ne correspondent pas à ce qu'on voit à l'image. Donc tout à coup, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du hors-cadre. Je dirais, ce serait peut-être plus juste dans le cas sur la période de parler de hors-cadre, puisque on est dans le domaine du cinéma qui se veut en dialogue avec la peinture, que plutôt le hors-champ. Mais quand même, ce hors-cadre connote tout à fait le cinéma, alors que ce qu'il y a dans l'image est au contraire un hommage à l'apport d'un peintre, à ce peintre exceptionnel du groupe des 11, qui était Jack Bush. Vous écoutez au 7e ciel, regard sur le cinéma, dernier quart d'heure de cette émission qui accourt entre midi et 13h chaque samedi de l'été. Une émission évidemment, comme son titre l'indique, entièrement consacrée au cinéma. Et cette semaine en particulier, il est question des relations entre cinéma et peinture, à la faveur d'une programmation de films qui a lieu en plein air dans le cadre du bivouac urbain aux angles de la Couronne et boulevard Charest ce soir à 21h, soit à la place de l'Université. Quand on parle des relations entre cinéma et peinture, ben, on peut parler de peintres, par exemple, issus des courants proches de l'expressionnisme abstrait, qui ont pu influencer un certain nombre de cinéastes d'animation, comme c'est le cas dans ce programme qui amorce la programmation qui sera présentée ce soir, qui s'appelle Eleven in Motion, en cinéaste, qui ont rendu hommage à un peintre, chacun un peintre du groupe des 11, donc un groupe dans trois, disons, contemporains de l'expressionnisme abstrait ou de l'abstraction, du grand mouvement nord-américain d'abstraction en peinture. Mais parler de cette manière de faire du cinéma en rendant hommage à l'expressionnisme abstrait ne doit pas faire oublier qu'il y a des cinéastes qui, depuis longtemps, évidemment, je parle de Norman McLaren, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça encore. Ou en tout cas, il faut approfondir un peu cette filiation. Des cinéastes, depuis longtemps, expriment à travers la forme cinématographique et son versant le plus expérimental, le plus aventurier, comment il y a des relations directes, ou en tout cas tout à fait éloquentes, qui peuvent se tisser entre la peinture et le cinéma de forme artistique forte. L'une évidemment associée à la tradition de l'histoire de l'art, et l'autre étant forcément bâtarde, et toujours, puisque c'est une forme jeune, prompte à se réinventer et à aller puiser dans les autres formes d'art pour trouver son inspiration. Et un des cinéastes qui a pu mettre en forme de la manière la plus convaincante, la plus éloquente et la plus virtuose les relations entre cinéma et peinture, peinture entendue sous son jour le plus, disons, le plus expressif, si on s'en tient à la peinture moderne et contemporaine, c'est-à-dire, entre autres, l'art abstrait, l'abstraction en peinture, évidemment, c'est plutôt la modernité, ou en tout cas, les années, jusqu'aux années 50-60. On peut pas ne pas parler de Stan Brakhage. Stan Brakhage, c'est un cinéaste expérimental qui a commencé dans les années 50 à faire son œuvre. Et c'est un cinéaste qui est d'une importance très très grande, en fait. C'est un cinéaste qui ratisse large, qui est certainement une des figures de proue du cinéma expérimental et du cinéma d'avant-garde, non seulement aux États-Unis, mais au-delà, je dirais, en Occident. Et qui a une résonance dans des œuvres aussi variées que les œuvres littéraires de la Beat Generation et le travail de quelqu'un comme Martin Scorsese, même si ce serait difficile peut-être de le déceler dans ses films les plus récents. Mais il n'empêche que Scorsese a très souvent eu l'occasion d'évoquer l'influence majeure de Brakhage sur son travail. Et en quoi Brakhage, peut-être tout comme McLaren, a pu influencer des cinéastes qui s'inscrivent davantage dans une manière traditionnelle de faire du cinéma, en proposant un récit au spectateur et en faisant de la fiction, ou parfois du documentaire, ben tout simplement en rappelant à ses créateurs que la forme cinématographique est l'effet de un certain nombre d'éléments qui sont finalement assez simples et par lesquels l'expression cinématographique advient. Donc la couleur, le mouvement, les lignes dans l'image, donc tout ce qui est de l'ordre, d'une manière picturale d'envisager l'image cinématographique, puisque lorsqu'on pense aux lignes, on pense aux lignes d'horizon, on pense à la perspective, donc travailler sur la perspective, travailler sur la profondeur de champ est un des aspects majeurs qui permet de comprendre une grande partie du cinéma contemporain qui se réinvente. Il y a beaucoup de cinéastes qui, au lieu de s'intéresser au mouvement de caméra et à la motricité propre au cinéma, qui est intrinsèque au cinéma, en fait, s'intéresse plutôt à la profondeur de champ, ce qui nous ramène, en fait, aux références picturales, encore une fois, ces références que l'on retrouve, évidemment, dans des films qui ne cherchent pas nécessairement à scorer au box-office, mais qui ont à cœur de voir tous les moyens par lesquels le cinéma, non seulement on va dialoguer avec des formes d'art plus traditionnelles, mais on va aussi remettre sur le tapis toute la richesse et la simplicité inégalée d'expression qu'il peut proposer. Donc, on travaille sur la profondeur de champ, ben là, évidemment, forcément, on se rapproche de la peinture. Et c'est vrai que Brakhage est un des cinéastes qui s'est certainement intéressé à un moment ou l'autre de sa carrière à la mobilité ou à la non-mobilité de l'image, et qui s'est intéressé aussi au cadre et à la place de la couleur dans un cadre. Et une grande partie de son travail d'homme mûr, si on veut, les dernières années de sa vie, a été consacrée à la réalisation de courts films qui sont des films abstraits, en fait, et le plus souvent des films peints, qui parfois ont une résonance, je dirais, mystique. Brackett, je n'étais pas quelqu'un forcément de religieux. Je trouve que, bon, si on qualifie un cinéaste de religieux, il faut forcément qu'il y ait une sorte de dogme derrière les propositions artistiques qu'il offre au spectateur. Mais Stan Brackett, j'étais tout sauf un cinéaste dogmatique. C'est un peu dans la tradition de la contre-culture nord-américaine que s'inscrit, disons, son discours mystique. Et entre autres, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la méditation et de la mystique, mais non pas du mysticisme encore une fois, de la méditation et de la mystique dans le cinéma de Brackage, qui implique un certain nombre de références à la tradition picturale. On sait comment, pendant des siècles, la peinture était en phase, évidemment, avec la mise en valeur de la culture religieuse. C'était un des fers de lance et un des fleurons, évidemment, de la culture religieuse qui s'est exprimée par la peinture pendant des siècles. Et Brackage en est conscient. C'est à la fois en historien et en mystique du cinéma qu'il va puiser dans ses références picturales très nimbées de religieux. Et entre autres, dans un film qui va être présenté ce soir, qui est dédié à sa femme, qui en fait ne porte pas de titre, mais qui est dédié à sa femme, donc qu'on appelle naturellement For Marilyn, sa femme étant Marilyn Brackage, que je salue au passage, et qui nous permet exceptionnellement que des films de Brackett soient présentés en plein air sans être projetés sur pellicule, parce que généralement, une des exigences de la famille Brackett, c'est de présenter les films que Stan Brackett a réalisés sous forme de pellicule. Entre autres parce que le cinéma de Brackett est vraiment lié à toutes les caractéristiques organiques de la photographie et de l'image en mouvement. Donc une manière, disons, traditionnelle, non numérique, non électronique, de considérer la forme cinématographique. Et évidemment, l'avant-garde et l'invention en cinéma, comme dans toute forme d'art, n'est pas nécessairement en phase avec les percées technologiques les plus récentes. Au contraire, il y a même parfois des occasions tout à fait convaincantes, tout à fait stimulantes, où des artistes peuvent reprendre à leur compte des manières de faire et des modes d'expression qui appartiennent à la tradition et qui ne sont pas nécessairement en phase avec l'époque. Mais malgré tout, par leur innovation, par leur vision singulière de la forme d'art qu'ils préconisent, ils vont parvenir à offrir aux spectateurs une manière de valoriser cette forme d'art qui n'a jamais eu cours auparavant. Donc l'invention, évidemment, en art n'a jamais été tributaire uniquement des innovations technologiques, même si dans le cinéma en particulier, souvent ça a été le cas. Il y a eu une symbiose, une sorte de relation symbiotique tout à fait naturelle, puisque la technique est assez importante en cinéma, entre les nouvelles technologies et l'évolution de la forme cinématographique. Mais pour ce qui est de Brackage, je pense qu'il faut prendre les choses différemment ou sous un autre angle. Dans son cas, il s'agit de prendre des bouts de film que le plus souvent, il a gratté avec une lame, en tout cas que très souvent, évidemment pas le plus souvent, mais dans sa dernière période en particulier, il a gratté avec une lame de rasoir pour faire ressortir toute la palette picturale de la pellicule cinématographique elle-même. Donc c'est même pas la photographie au sens strict qui est mise en valeur par Brackage dans ces films-là et dans son film For Marilyn, mais plutôt le matériau photographique. Donc c'est pas la photo, mais la matière avec laquelle on fait de la photo qu'utilise Brackage pour faire ses films. Donc c'est déjà différent, et ça suppose que le matériau photographique, ben il le met, pas le matériau photographique, mais la résultante du matériau photographique, la photo, il la met à distance au profit d'un travail sur la matière qui va peut-être avec les transformations de la forme cinématographique aujourd'hui, ces transformations qui nous mènent vers le numérique. Et je crois qu'il y a une relation entre ces transformations et le travail de Brackage à la fin, entre autres. Et c'est peut-être anecdotique, mais c'est certainement pas anodin. Brackage est devenu très malade à la fin de sa vie, et c'était lié au au travail qu'il faisait sur, directement sur la pellicule, donc toutes les émanations chimiques qui venaient de la pellicule l'ont rendu très malade. Et en fait, de cette manière-là, on peut dire que cette expérience sur son corps montrait bien que le travail de Brakhage était aussi un travail qui impliquait une conscience de la mort, peut-être une conscience de la mort d'une certaine manière de faire le cinéma. Et cette passion pour la pellicule, Brakhage a réussi à la transmettre tout en s'empoisonnant par le fait même. Donc, cette passion pour la matière filmique, pour la pellicule, Brakhage l'exalte, la magnifie par son travail sur le matériau, et en particulier, pour revenir à la dimension mystique de son travail qui est liée à son expression picturo-cinématographique, je pourrais dire, c'est l'idée de se référer par éclat de lumière, par stries, aux effets de luminescence que permet la pellicule et qui rappelle, entre autres, le vitrail dans les églises, dans les lieux de recueillement religieux. Donc voilà, je vais terminer peut-être mon propos sur cette programmation ce soir là-dessus, donc cinéma en plein air qui aura lieu à compter de 21h, bon, en tout cas quand le jour tombe, disons, ça commence à 21h, peut-être juste un tout petit peu après, comme il fait très beau. Je n'ai pas à dire que s'il pleut vers 6h30, 19h, on va déplacer l'équipement vers la salle multi dans l'espace de cette salle qui est située dans Méduse. C'était un peu le plan B s'il pleuvait, mais de toute évidence, il fait un temps magnifique. Donc, vous êtes attendu en grand nombre à cette programmation qui est assez exceptionnelle, qui joue beaucoup sur le rapport entre l'absence de lumière et la présence de la lumière et de la couleur, et qui, par conséquent, trouve tout à fait sa place dans la nuit et la pénombre en plein air. C'est très rare que ces films-là sont présentés dans un contexte pareil, et ça va être certainement une expérience passionnante. Donc, j'espère que vous y serez. C'était Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL. Vous écoutiez Au septième ciel. Je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine.